l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission La Manette, cette émission qui vous parle des musiques actuelles en région Limousin. Chaque mois, on essaie de donner les infos qui peuvent intéresser les musiciens, comme les derniers tremplins en cours, ou encore ceux qui sont tout simplement amateurs de musique et qui aiment bien savoir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière quand on n'est pas que public. Donc il y aura pas mal de choses à annoncer. En plus des tremplins, on aura quelques petites formations qui sont plutôt pour les bénévoles. On sait qu'ils sont nombreux dans la région. Et puis quelques autres infos avec un dossier qui nous prendra pas mal de temps aujourd'hui. On présentera une exposition à la BFM de Limoges qui s'appelle phonographe.mp3. Le but est de retracer un peu l'histoire des lecteurs musicaux et de s'interroger sur les qualités et les mauvais traitements qu'on peut faire subir au son et à la musique aujourd'hui. Ce dossier un peu plus important que d'habitude fera que nous n'avons pas exceptionnellement d'artistes invités ce mois-ci, mais dès le mois prochain, bien sûr, vous retrouverez un autre artiste du Limousin, un duo a priori. Je ne vous en dis pas plus, mais effectivement, comme vous le savez aussi dans cette émission, tous les titres musicaux qui seront diffusés sont des artistes de la région. Durant cette petite heure, après avoir traité toutes les infos que je viens de vous dire, on ira faire aussi un tour tout simplement sur l'actualité du web, qu'est-ce qui se passe dans le monde de la musique, qu'est-ce qu'on apprendra, deux, trois choses. Ce sera l'occasion aussi de voir un petit peu sur le web comment est traitée la musique. Il y a deux, trois actus, on vous citera des choses qui sont sorties sur Don't Believe the Hype, un blog que vous devez commencer à connaître si vous suivez régulièrement cette émission, puisqu'on vous en parle de temps en temps. Bref, on commence en musique sans plus attendre. On va commencer avec du blues et effectivement c'est un morceau tout simplement de Bobby Deringer qui va commencer sur son album à sortir, une petite exclue pour la manette, Change of Season. On espère qu'on pourra l'avoir en interview, ce sera pour le mois de décembre, mais pour vous mettre l'eau à la bouche, on va s'écouter In the End tout de suite sur l'antenne de la manette dans votre radio préférée. Vous êtes bien.
Sun rose down in the city. And the spirit rose died. Fifty miles bound to nowhere. And his feet began to hurt. right in the gloom. In some pleasant retirement home. On some island in the sun.
Bobby Dierlinger, voilà, avec une sortie officielle un petit peu plus tard, mais c'était l'occasion pour nous, en exclusivité, de faire une première découverte de cet album. Comme je vous le disais, il y a pas mal d'actualités qui arrivent en ce moment pour tous les porteurs de projets, tous ceux qui auraient un projet dans la musique ou plus largement dans la culture et qui ont besoin d'informations. Eh bien, il y a des temps d'infos qui sont organisés soit par la Fédération Hiro, mais l'AVEC en propose aussi. Et on parlera également de ceux organisés par Des Lendemains qui Chantent. Qu'est-ce que ça permet tout ça? Ça permet tout simplement déjà de se regrouper entre associations, entre porteurs de projets associatifs. L'idée étant de faire monter un petit peu les bénévoles en compétences. On le sait, aujourd'hui, les activités culturelles demande de plus en plus de compétences. L'idée d'arriver à faire un point et de fournir quelques outils pour vous permettre d'aller plus loin dans votre projet, que votre projet aboutisse. On le souhaite, évidemment. Alors, ça commencera quand? Ça commencera le jeudi 29 octobre. Ce sera du côté de Bellac, car il ne se passe pas, effectivement, que des choses à Limoges. Promouvoir son événement culturel. L'idée, c'est de donner quelques stratégies et puis les outils pour pouvoir savoir comment gagner du temps et être plus efficace dans sa communication. Tout le monde, évidemment, a ses bons réflexes de communication, c'est un petit peu comment faire, mais il y a des choses plus efficaces que d'autres. Est-ce qu'on peut éviter de perdre du temps sur certains aspects pour en gagner sur d'autres et puis avoir une communication efficace? C'est les questions qu'on se posera. Donc ce sera au Théâtre du Cloître le jeudi 29 octobre à partir de 19h. Ces formations ont effectivement lieu hors du temps de travail Hein, l'idée étant de former les bénévoles. Donc ce sera dans, en collaboration avec le Pays du Haut-Limousin. Hein, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site de la manette ou à appeler la Fédération Hiéro pour plus d'informations. 05 55 10 00 84. Après, on arrivera au mois de novembre et puis vous le savez, on en a parlé plusieurs fois dans cette émission. Le fait de se regrouper en grande région va changer des choses au niveau du financement culturel. Vous avez peut-être une petite association, ou une association importante d'ailleurs, et vous en êtes bénévole, président ou quoi, et vous vous dites, mince, qu'est-ce qui va se passer? Pour l'instant, j'ai quelques aides de la région. Que va-t-il en être au moment où les trois régions vont fusionner? Qu'est-ce qui existe aussi dans les autres régions et qui pourrait être intéressant d'appliquer ici? Bref, l'idée n'est pas d'apporter des réponses, car ces réponses n'existent pas. Mais par contre, de bien se poser les bonnes questions, et puis que les inquiétudes puissent être ou non fondées. Peut-être que ce sera l'occasion aussi de vous rassurer hein, sur toutes ces questions-là. En tout cas, n'hésitez pas, ce sera donc le 12 novembre dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire qui a lieu tout le mois de novembre. Et là, ce sera le 12 novembre à 19h au Phare à Limoges. Voilà donc ce temps d'échange qui doit permettre aux associations et aux acteurs de l'économie sociale et solidaire d'anticiper plusieurs scénarios induits par la fusion des régions. Mois de novembre toujours, mais au 18 novembre, eh bien tout simplement, c'est l'AVEC qui propose un temps de réflexion, un atelier pratique sur le mécénat culturel. Il y a une grande réunion le 10 juin à la CCI, à la Chambre de Commerce et de l'Industrie. L'idée étant de réfléchir sur le mécénat culturel. Comment permettre finalement aux associations de s'emparer de ce sujet-là. De quoi on traitera hein, dans ce rendez-vous? L'idée, c'est de traiter de la législation. Hein. Le don, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Il y a un sens commun au don, hein, quand on dit « je donne quelque chose ». Mais il y a une signification administrative qui est intéressante à regarder. Et puis, le mécénat d'entreprise hein, donc, est pas exactement comme ceux que des dons individuels. L'idée est de réfléchir là-dessus. Sur les organismes autorisés à recevoir des dons, des dons en tout cas qui donnent droit à réduction d'impôts, ce qui n'est pas le cas de toutes les structures. Il y aura également un comparatif entre le mécénat et le sponsoring et puis quelques précisions que l'État a fait sur la notion de contrepartie. La mise en place d'une stratégie, c'est bien beau, mais il faut savoir les opportunités qu'on a. Si c'est pour y passer des heures et des heures, voire des jours entiers pour finalement ramener 200 balles dans son association, est-ce que ça vaut bien le coup? Il va falloir un petit peu valider tout ça, toutes ces opportunités que vous pourriez avoir de mécénat. L'idée, encore une fois, est d'éviter de vous faire perdre du temps. De cibler aussi ces mécènes, on va regarder tout simplement, est-ce qu'il existe des annuaires qui nous permettront de choisir les entreprises à qui on pourrait faire des propositions de partenariat ou de mécénat. Proposer plusieurs modes de contribution, répondre aux appels d'offres des fondations, c'est aussi une mode d'action du mécénat, les appels à projets. Et puis après, on regardera aussi les outils pratiques parce que l'idée, c'est un petit peu de repartir avec des billes. Donc, on regardera une fiche pratique qui sera remise à la fin de la formation, aussi des tableaux qui calculent les avantages fiscaux potentiels ou pas, des listings de fondations, d'entreprises hein, qui peuvent éventuellement en tout cas qui déclarent aider des projets culturels. Différentes papiers aussi qu'on regardera ensemble. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un reçu pour don? Qu'est-ce que c'est qu'un rescrit fiscal? Et comment on le demande au service des impôts? Toutes ces questions seront donc traité grâce à l'AVEC Limousin. Et tout ça se passera de 14h à 17h30 le mercredi 18 novembre à l'hôtel de région. Les inscriptions sont à faire auprès de l'AVEC Limousin. Je vous rappelle leur site avec-limousin.fr. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Eh bien, ça nous amène au mois de décembre et là, ce sera plus pour les musiciens. Préparer un enregistrement musical, les étapes indispensables. Il suffit pas d'arriver en studio, d'avoir réservé, de se pointer et de dire, ça y est, comment on fait? On enregistre, on a deux jours. Non, tout ça, évidemment, ça se prépare. L'idée, c'est de pouvoir y réfléchir tous ensemble. Et pour pouvoir y réfléchir, eh bien, nous serons aidés de Christophe Marot, qui est technicien au Sonic Studio et qui est habitué, pourquoi pas, à enregistrer quelques groupes, notamment des groupes du coin. Lui, il va pouvoir donner son avis de technicien et d'ingénieur du son. L'idée sera de réfléchir aussi sur la stratégie. Pourquoi j'enregistre? Si j'enregistre pour faire une démo, combien de titres je vais mettre dessus, etc. Ce qui vous permettra aussi, vous, musiciens, de préparer votre entrée en studio. C'est le but de cette formation du 3 décembre qui se passera à 19h à Epicéa, qui est une école de musique et bien plus à Limoges. Le 12 décembre à la BFM de Limoges, un atelier pratique diffuser ses œuvres musicales en ligne. Vous voyez que tous les groupes ils sont sur Deezer, ils sont sur Spotify, ils sont sur les applications qu'on a sur les smartphones pour écouter directement de la musique, voire la télécharger légalement, j'entends bien. Et bien pour pouvoir mettre sa musique sur toutes ces plateformes, on passe par ce qu'on appelle un agrégateur agrégateurs de contenu. L'idée, ce sera de réfléchir ensemble comment on prépare cette mise en ligne, parce qu'il y a des numéros d'identifiants des morceaux, tout ça est un petit peu technique. Donc, on vous mettra tous les participants devant un ordinateur à la BFM de Limoges. Ce sera le samedi 12 décembre à 14h. Tout le monde aura un ordinateur en face de lui pour pouvoir avancer concrètement sur ces questions-là et puis faire un exemple, puisque tous les participants pourront mettre un EP, c'est-à-dire au moins 4 titres en ligne sur toutes les plateformes, ou en tout cas sur 200 plateformes dans le monde entier, grâce à un partenaire qui s'appelle eMusician et qui nous offre donc un album, un EP par groupe à mettre en ligne, alors que normalement ce sont des solutions payantes. Ailleurs qu'à Limoges, il se passe des choses, notamment à Tulle, où vous pourrez retrouver par exemple comment construire sa fiche pratique et comment la lire aussi. Pourquoi pas, que vous soyez d'un côté ou de l'autre de la barrière, que vous soyez artiste et que vous avez besoin de rédiger cette fiche technique, ou alors que vous soyez organisateur et qu'on vous les envoie et que vous n'y compreniez pas grand-chose, ce sera l'occasion avec Raphaël Grosset, qui est régisseur principal à Des Lendemains qui Chantent, d'étudier cette question, comment la lire, comment construire sa fiche technique. Et puis également, toujours à Tulle, à Des Lendemains qui Chantent, le mercredi 25 novembre, retrouvez une formation qui s'intitule La promotion sur le web grâce à YouTube. Comment on peut développer sa fanbase, fait créer une chaîne ou ce genre de choses, intégrer ses vidéos sur les réseaux sociaux. Cette question-là sera traitée par Des Lendemains qui Chantent. N'hésitez pas à les appeler pour réserver. Info à deslendemainsquichantent.org ou le 05 55 26 66 00. Voilà. Toutes ces petits temps de formation, vous les retrouvez sur le site de l'AVEC, vous les retrouvez également sur le site de la manette, lamanette.fr. Nous, on repart en musique et puis ce sera l'occasion de parler d'autres actualités. On repart avec Valérie Costa qui nous interprète un morceau Quien puede saber. C'est parti en musique donc, et on se retrouve évidemment juste après. C'est parti.
¿Quién puede saber? ¿Quién quiere saber? Todo el camino para tener aquí lo que es ahora, una nueva vida. Tanto que descubrir, muy lejos de ti, muy lejos de mí, yo lleno de ti y tú vacía de mí. muero y voy a quedarme en esta tierra que ayer me acogió y para siempre será mía. Le pido a Dios que permite que antes de morir tú sepas que nunca deje de quererte y que no te olvide jamás.
Musique expérimentale.
Valérie Costa, donc, à l'instant, sur son titre Quien puede saber, une artiste de la région, bien évidemment, comme tous les artistes qui sont diffusés dans cette émission La Manette. Vous êtes bien sur l'antenne de votre radio préférée à écouter cette émission qui parle des musiques actuelles, mais pas que. Et là, on va vous parler d'une exposition qui est en ce moment à la BFM de Limoges et qui s'intitule phonographe.mp3. Hein, c'est un petit peu l'anatomie des musiques actuelles par l'évolution des supports musicaux. Ces supports, ils ont énormément changé. La façon dont on fait la musique, dont on l'appréhende, dont on l'écoute, bien évidemment. On peut se rendre compte, par exemple, qu'au départ, on a trouvé un enregistreur de musique, mais qui n'était pas le lecteur. Hein. C'était le phonautographe, hein, qui date de 1857, l'idée étant de placer la voix, et donc la voix de la personne qui veut s'enregistrer, qui chante dans un cône, et ça va concentrer un petit peu la vibration qui va faire bouger une espèce de fumée d'encre qui va s'imprimer sur le papier. Et il a fallu attendre les années 2000 pour pouvoir décrypter cet enregistrement qui, a priori, a été chanté par l'inventeur lui-même, et c'était au clair de la lune. Hein. C'est en 2008 hein, qu'un groupe de chercheurs a réussi à retranscrire cet enregistrement. Donc on avait déjà ce souci d'enregistrer notamment la voix, et ça se ressentait dans la musique, évidemment. La voix était dominante hein, dans toutes ces musiques fin 19e, début 20e. Après quoi arrive le paléophone, et là c'est Charles Cros l'inventeur, sauf qu'il n'a jamais réalisé son projet, et il s'est fait un peu doubler par Thomas Edison, qui le 19 décembre lui pose son brevet pour le phonographe. Lui, il aura de quoi arriver à développer ces appareils-là, des industriels le suivront, et donc il va créer la première machine à rouleau de cire. Sachant que cette machine, en rabotant ses rouleaux de cire, permettait de réenregistrer sur le même rouleau. Donc on a notre premier support réinscriptible, hein, avant même bien sûr la cassette ou autre chose. Vous pouviez effacer votre support et puis réenregistrer. Malgré tout, c'est quand même des supports qui étaient faits pour retranscrire la voix, car c'était la première chose que les gens souhaitaient, c'était retranscrire la voix, non pas tant que ça pour la musique et le chant, mais plutôt par exemple pour un patron, pour dicter une lettre qui sera après tapée par sa secrétaire, ou encore un chef d'État qui souhaitait enregistrer un discours. Et puis ça évolue. Au bout d'un moment, il y a un mec, ce rouleau de cire, est-ce que je pourrais pas l'aplatir, le transformer en disque permettant de le presser de manière industrielle? C'est l'invention du gramophone. Ben oui, hein, le gramophone qui apparaît, donc pareil, fin du 19e. Grosse révolution, hein, c'est ça, c'est d'arriver à faire finalement un disque. Alors au départ, c'était de la cire d'abeille sur du zinc, puis de la gomme ou une espèce de laque qu'on appelle le shellac aussi, hein, qui est une résine issue d'une sécrétion d'une chenille asiatique, hein, comme quoi. Et après quoi, on arrive sur du vinyle, et là ça permet vraiment d'exploser, notamment avec l'invention du micro-sillon et du 33 tours et du 45 tours. Voilà, c'est le premier support duplicable industriellement, hein, et là ça change tout, parce qu'effectivement on arrive à retranscrire la musique beaucoup plus fidèlement, ce qui permet d'entendre mieux les instruments. On peut rajouter des couches d'instruments sans pour autant masquer la voix. Ça nous amène après à l'électrophone. Eh ben oui, c'est gros magnéto à bande, hein. Non, excusez-moi, l'électrophone qui est le premier phonographe électrique, hein. Voilà, on invente l'électricité, on les rajoute parce qu'avant il n'y avait pas besoin d'électricité pour lire les vinyles, au grand dam des plus jeunes d'entre nous. Donc après on passe au magnétophone à bande, voilà les premières éditions du magnétophone à bande qui apparaît en 1928. Puis c'est assez rigolo parce que finalement l'inventeur il travaillait plutôt sur le fait d'incruster des fils de cuivre à l'intérieur des cigarettes, vous voyez. Et puis finalement il a réussi à magnétiser du papier, ce qui a donné la première bande magnétique, hein. Bon après évidemment ça devient une bande de plastique très fine avec un peu d'oxyde de fer. Et puis on a le magnétocassette, la miniaturisation, et Philips qui débarque en 61 avec sa cassette. En plus du gain de place qui est offert par la cassette audio, hein, ça permet de protéger la bande magnétique avec un boîtier plastique. Et évidemment, c'est aussi réinscriptible. Alors, on va dire, bah, effectivement, les artistes gueulent en disant c'est intolérable, regardez, les gens ils peuvent copier notre musique, ils auront plus besoin de l'acheter. Oui, ça a gueulé sur la cassette, comme ça a gueulé sur le CD vierge, mais dites-vous que ça a gueulé bien avant, puisque même à l'apparition des premiers supports d'enregistrement type disque, eh bien l'industrie musicale, ou en tout cas les vendeurs de groupes ou les artistes eux-mêmes s'inquiètent en disant mais si les gens ils peuvent avoir de la musique chez eux, ils viendront plus jamais au concert et on va plus gagner d'argent, hein. Ouais, on a vu par la suite que finalement le disque pendant quand même quelques années a pu être une source de revenus pour l'artiste. Toujours est-il que, effectivement, même quand la radio arrive, hein, l'industrie musicale gueule en disant, ben non, c'est pas normal, si les gens ils peuvent avoir la musique gratos chez eux en allumant la radio, vous croyez quand même pas que ces gens-là vont aller acheter de la musique, bien si, a priori, ça promouvoit la musique que les gens achètent derrière. Après le magnétocassette, ben forcément, on arrive au lecteur CD, hein, 82, on essaie d'augmenter en qualité, ce qui est vrai. Pour la lecture, on lit avec un laser et non plus avec une pointe où au bout je vais avoir un saphir ou un diamant. Donc la lecture est beaucoup plus précise, il n'y a pas de son parasite, on estime qu'elle est plus fidèle. Par contre, si on ne prend en compte que le disque et pas le lecteur, eh bien il y a plus d'informations musicales sur un disque vinyle que sur un disque CD, ce qui explique peut-être que des DJ utilisent encore tout simplement ces lecteurs. Et puis bon, effectivement, la dématérialisation, elle arrive hein, à partir de 95 avec l'invention du MP3 qui était au départ développé pour que la radio devienne numérique, hein, qui n'était pas fait au départ pour diffuser de la musique sur Internet, mais évidemment avec l'apparition d'Internet, c'est ça. Alors pour gagner de la place, le MP3 supprime une partie des informations. Évidemment, on perd de la qualité à ce moment-là, mais ça permettait effectivement, en prenant 10 fois moins de place que le format CD, le format numérique utilisé sur le CD, ça a permis de le passer par Internet. Quoique les tuyaux d'Internet aujourd'hui sont suffisamment gros pour qu'on puisse se permettre de diffuser autre chose que du MP3, on y reviendra. Grosse révolution aussi, les appareils portatifs. Alors ça, c'est pas nouveau. Hein. Quand le Edison sort son Ediphone en 1925, le but, c'est d'être compact et mobile. Mais bon, encore une fois, il servira plus à enregistrer de la voix que de la musique. Et puis après, il y a les valises vinyles, hein, le fameux Tepaz hein, qui a marqué la jeunesse des années 60. Et puis, on a aussi les magnétophones qui passent par le Ghetto Blaster avant d'arriver évidemment au baladeur Walkman. Là, tout change parce qu'on a de la musique à disposition dans sa poche, c'est l'écoute au casque. Et puis même si cette écoute au casque existe depuis bien longtemps, parce qu'avant on avait des stéthoscopes branchés à des appareils de lecture, donc on avait déjà de l'écoute au casque, mais là de se dire qu'on a l'appareil dans la poche et qu'on peut écouter en marchant, eh bien on va exploser le nombre d'heures qu'on passe à écouter de la musique. C'est l'écoute nomade. Et puis évidemment après le Walkman, il y aura le Discman, etc., jusqu'au lecteur MP3 qui aujourd'hui est résumé à l'intérieur de votre téléphone portable. Vous pouvez mettre une trentaine d'albums, bien pratique quand même, hein. Bref, avant la suite de cette petite histoire hein, des lecteurs musicaux et notamment qu'est-ce que ça a changé pour notre écoute et pour la manière dont les artistes font la musique, en attendant, on va avant tout s'écouter un autre titre qui fait bien le lien entre le passé et le présent, puisque c'est Arthur Andelieré sur son album Aquarium qui nous reprend certaines œuvres. Et là, c'est l'œuvre d'Eric Satie, Gno Zien numéro 1. On écoute tout de suite ce morceau, on se retrouve juste après pour la deuxième partie de cette petite histoire des musiques actuelles par l'évolution des lecteurs musicaux. C'est parti. Thank you. Artuan des Lierais à l'instant sur l'antenne de votre radio préférée. Vous êtes toujours dans l'émission La Manette, l'émission qui vous parle des groupes du Limousin et puis qui essaie de vous tourner un petit peu l'envers du décor et puis de vous informer si vous êtes passionné de musique ou si vous faites partie d'une asso par exemple, si vous êtes bénévole et que vous avez besoin un petit peu d'infos sur tout ce qui se passe et comment organiser des événements, communiquer dessus ou autre. Deuxième partie donc de cette petite présentation, courte présentation de l'exposition phonographe.mp3 qui a lieu en ce moment à la BFM de Limoges. Après avoir parlé finalement de l'évolution des supports, qu'est-ce que ça a donné? Alors faut savoir aussi qu'aujourd'hui on traite la musique, et la musique est traitée informatiquement. Alors la question qu'on va se poser, c'est quel traitement ou quel mauvais traitement inflige-t-on aujourd'hui à la musique? Et bien d'abord, il y a la guerre du volume. La guerre du volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les niveaux sonores les plus importants en concert ont déjà été atteints. Après, la question s'est posée sur l'enregistrement. Pourquoi on aurait envie que les morceaux de musique aient l'impression, enfin, sortent plus fort? Alors d'abord, il y a des études qui montrent qu'une personne écoutant deux fois le même morceau trouvera qu'une version plus forte, ne serait-ce que d'un seul décibel, sonne mieux que l'autre. Donc naturellement, on a tendance à associer la qualité avec le volume sonore. Et puis, il faut le dire aussi, l'être humain fixe plus facilement son attention sur une musique si elle est diffusée à un volume important. L'exemple type, c'est la télé. Quand on vous passe une publicité, vous avez l'impression qu'elle est plus forte que le film. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que le film, des fois, il est fort, des fois, il est pas fort. Il respire. Hein. Il est pas forcément très compressé audio-dynamiquement. Quand la publicité arrive, elle est très compressée pour être forte dès la première seconde. Du coup, le son paraît plus fort et même si vous aviez arrêté de regarder la télé, que vous étiez toujours dans le salon, le moment où la pub démarre, vous avez cette sensation que le son est plus fort, qu'est-ce que vous faites? Vous tournez vos yeux vers la télé, vous regardez donc le spot TV, le spot de pub, ils ont gagné. Un petit peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, pour exister dans le monde musical, pour exister sur les radios, les artistes finalement se doivent de répondre aux standards du moment, hein, ce qui sont un petit peu en ce moment la compression audio-dynamique, c'est-à-dire d'être fort de la première à la dernière seconde. Si un artiste aujourd'hui fait le choix de pour revenir un petit peu en arrière, pour avoir plus de qualité, plus de dynamique audio, eh bien, il passera plus inaperçu sur le web, par exemple, sur des gens qui créent sur une playlist, ou encore à la radio. Donc, forcément, la question se pose sur ce mauvais traitement de cette guerre du volume. Alors, jusqu'où on va sur cette guerre du volume? Eh bien, faut se dire quand même que les passionnés de musique commencent à s'inquiéter de tout ça. Non pas que les audiophiles, mais on a un exemple un peu criant, qui est celui de Metallica, qui a sorti un album qui, même les fans trouvaient que l'album était un peu trop compressé. Bon, résultat, une année après, sort le jeu Guitar Hero Metallica. Eh bien, figurez-vous que le jeu vidéo, qui plutôt qu'avoir pris le CD comme référence, a pris les enregistrements en studio et donc n'a pas compressé autant que l'a fait le groupe au moment de la sortie du CD, eh bien, il y en a plein qui trouvent que le jeu vidéo sonne mieux que le CD, ce qui est un petit peu dommage. Alors, en plus de ces compressions audio-dynamiques, où on monte le son un peu artificiellement pour avoir cette impression de gros son, eh bien, à contrario, quand on arrive sur la dématérialisation et notamment le MP3, on va détruire jusqu'à 90% de l'information musicale. Comment ça fonctionne un MP3? C'est assez simple. Dans la musique, il y a plein de fréquences, des très graves, des très aiguës. Si jamais votre cerveau entend la fréquence grave numéro 1 et la fréquence grave numéro 3, eh bien, il va faire comme si la fréquence grave numéro 2 était là. On a échantillonné la musique, mais si c'est suffisamment bien fait, ça va tromper notre oreille et on aura l'impression d'entendre la musique en entier. Un petit peu comme quand on fait défiler 24 images seconde devant nos yeux au cinéma, on ne voit pas des photos qui défilent, mais on a bien l'impression de quelque chose de continu. Eh bien, c'est ce qui se passe pour le MP3, mais sachez que ce sont des formats destructifs. Une fois que notre titre est en MP3, impossible de le ramener en bonne qualité. Donc, optez, si vous le pouvez, vers de meilleurs formats. Pour en savoir plus, il va y avoir un mini-conférence. En tout cas, l'idée, c'est de réfléchir ensemble avec un ingénieur du son, David Mascugnan, et puis également avec un sociologue, Sylvain Aquatias, qui lui a réfléchi sur les pratiques d'écoute des jeunes. Il y aura également Kerity, un artiste, qui viendra donner sa vision des choses. L'idée, c'est de réfléchir ensemble et pourquoi pas avec vous si vous avez des remarques là-dessus sur ces mauvais traitements qu'on fait subir à la musique en passant par l'écoute principale de musique qu'on a notamment chez les jeunes. Ils écoutent de nouveaux supports avec de nouveaux modes et notamment le web et puis les nouveaux écrans. Donc il faut prendre tout ça en compte et puis voir comment on pourrait aller vers du mieux si effectivement cette qualité d'écoute qu'on a aujourd'hui nous semblerait catastrophique, même si catastrophique serait un mot un peu important évidemment. Écoutez, nous on va continuer en musique, hein, on va continuer en musique ce coup-ci, on va s'écouter un morceau de Clash Point. Clash Point, c'est ce duo électro familial d'ailleurs, on peut le dire, qui officie à Limoges et qui vont d'ailleurs jouer au mois de décembre au CCM John Lennon. Et là on va s'écouter en tout cas le morceau Synergy, ce morceau de Clash Point qu'on découvre ensemble, même si moi je l'ai déjà découvert, c'est plutôt pour le terme qu'on utilise rapidement en général en radio, pour vous juste dire que là ben, on va écouter de la musique maintenant. Donc musique, Clash Point.
l'outil pour se diriger dans les musiques actuelles.
À l'instant, donc, c'était Clash Point, dernière partie de cette émission. La manette que vous écoutez grâce à votre radio préférée, que l'un petit peu pour informer tous ceux qui s'intéressent à la musique et qui y participent en tant que bénévole ou tout simplement en tant que musicien. Mais d'ailleurs, c'est aux musiciens qu'on va s'adresser dans cette dernière partie d'émission, puisque avec la reprise de la saison, c'est un petit peu la saison des tremplins. Donc, il y a pas mal de choses en ce moment sur lesquelles vous pouvez postuler, à savoir, le plus connu peut-être, un des plus importants en tout cas, c'est les Inouïs du Printemps de Bourges. Les candidatures, c'est jusqu'au 6 novembre. Ça fait 30 ans quand même hein, qu'ils font ce tremplin-là, le Printemps de Bourges. Alors qu'est-ce que ça permet? Évidemment, pour un heureux chanceux du Limousin, ça pourrait permettre d'être présent sur l'événement le Printemps de Bourges et de venir défendre les couleurs de la région. Avant tout, défendre sa musique. En deuxième lieu, évidemment, défendre, pourquoi pas, la région. Mais bref. Mais bon, il n'y en a qu'un seul. Alors vous vous dites, ouais, bah attends, de toute façon, ça sera jamais moi, je vois pas pourquoi je postulerai. Alors, on le redit chaque année, mais plusieurs raisons peuvent vous faire postuler. La première, c'est que, je sais pas, pour ceux qui sont artistes, vous le savez, c'est très compliqué d'arriver à ce que les programmateurs écoutent votre musique, hein, qu'ils y prêtent attention, qu'ils cliquent vraiment sur les liens que vous envoyez ou qu'ils écoutent les CD que vous leur donnez. Eh bien là, soyez sûr que au moins une dizaine de professionnels de la région, mais pas que, hein, vont prendre le temps d'écouter un ou deux de vos morceaux, de voir un petit peu votre pochette, votre imaginaire, votre photo, pourquoi pas de lire votre bio. Donc tout ça, c'est suffisamment rare pour être noté. Voilà, vous pourrez être écouté de tous ces professionnels. Et si ça marche pas cette année, ils auront entendu parler de vous. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le premier avantage. Et puis deuxième, il y a quand même 4 ou 5 présélectionnés qui auront la chance de jouer au CCM John Lennon. Si tout se passe bien, ce concert pourrait être filmé et retransmis sur Telim TV, comme ça a été le cas l'an passé, avec évidemment la possibilité pour les groupes de repartir avec leur concert tourné en multi-caméra, ce qui n'est pas rien loin de là. Et puis voilà, effectivement, pourquoi pas être sélectionné comme l'ont été par le passé Maïsia, Seven Weeks, Lizard, Arthur Andeliré qu'on a écouté tout à l'heure, et plein d'autres bien sûr. Donc voilà, en tout cas les Inouïs du Printemps de Bourges, on ne postule qu'en ligne, donc vous tapez sur internet, vous arriverez à le trouver, sinon c'est sur site lamanette.fr. Également, s'il y a des gens qui sont plutôt branchés musique traditionnelle ou musique du monde, il y a la bourse en ce moment, Adami, F-A-M-D-D, qui permet à un artiste, à des musiciens professionnels hein, quand même, qui peuvent se former auprès d'un artiste reconnu des musiques trad ou des musiques du monde, ce qui n'est pas rien. Et également, le Ricard et Salave Musique qui lance son appel à candidature. Hein, vous pouvez y aller donc pour proposer votre artiste dont vous vous occupez, ou voire même vous-même si c'est... Qu'avons-nous d'autre? Eh bien, vous avez peut-être un projet à l'international. Ben, sachez que l'Institut français a une convention avec la région Limousin qui permet d'avoir des bourses hein, pour des projets à l'international. L'idée, c'est de imaginer des grands circuits artistiques internationaux, aider des opérateurs culturels hein, dans leur diffusion à l'international, et puis permettre une meilleure valorisation hein, des actions internationales menées en Limousin. Donc, n'hésitez pas à aller gratter sur le site soit de l'Institut français, soit de la région Limousin, soit sur celui de l'AVEC. L'AVEC Limousin qui a sorti son nouvelle version du site avec-limousin.fr où il y a toutes les informations ressources. Restons en local avec un autre tremplin qui nous revient depuis plusieurs années, c'est le Catalacum. Et donc cette année, l'idée c'est de pouvoir encore une fois faire ouvrir pour la tête d'affiche du festival, hein, festival qui a lieu en général le tout début juillet. Eh bien, donc, si vous voulez proposer votre démo, n'hésitez pas, il faut envoyer un CD hein, par la poste à Festival Catalacum, le tremplin, mairie de Chaptelat à Chaptelat. Puis sinon, évidemment, toutes les infos, vous les retrouvez sur les sites de la manette. Si jamais vous êtes présélectionné, eh bien, vous participerez aux auditions qui ont lieu à l'espace Georges Brassens le 5 mars 2016. Et puis, si vous êtes le coup de cœur, eh bien, vous faites la première partie de ce festival. Quoi d'autre aussi pour les artistes auviennois? Désolé pour ceux qui nous écoutent en Creuse ou en Corrèze, la Culture au Grand Jour lance son appel à participation. Si vous êtes retenu, vous allez jouer dans une commune du département de manière rémunérée. Par contre, attention, il faut être autonome techniquement. Mais bon, ça permet effectivement d'avoir une date plutôt bien organisée avec une communication autour et d'aller toucher un public qu'on ne touche pas forcément, parce qu'on le sait, il y a pas mal de concerts sur les gros bassins de population, mais à d'autres endroits, il y en a un petit peu moins, et puis les gens sont plus plutôt quand même désireux de découvrir des choses et de venir voir un petit concert, n'hésitez pas à proposer votre projet. S'il est retenu, encore une fois, il sera financé pour vous permettre eh bien, d'aller vous produire dans la dite commune. Voilà un petit peu pour les infos tremplins qui peuvent se passer et qui dont les appels à candidature ont lieu en ce moment. Donc n'hésitez pas, tout ça encore une fois, vous le retrouverez sur le site lamanette.fr. Eh bien écoutez, c'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Et on se quitte évidemment avec un groupe local, c'est le groupe 8 qui nous interprète un de ses morceaux. Il nous joue Before the Storm. Et moi je vous dis au mois prochain avec ce coup-ci un invité. Ciao, bye bye, n'hésitez pas à soutenir votre scène locale, sortez de chez vous, allez voir des concerts, achetez-leur des disques. Alors excusez-moi parce que ça n'est pas ça du tout qui était bien sûr prévu, vous l'aurez compris, mais bien c'est du rock. Eh ben oui, ça partait pas rock. Hein. Allez, ciao.